accent d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui et pour cet été, nous vous proposons les meilleurs moments d'accent d'Europe. Venir en aide aux réfugiés de manière ludique mais aussi très professionnelle, c'est l'idée de deux start-up à Bruxelles. Leur projet Cook for Chance organise des dîners et lève des fonds en faveur de l'éducation des réfugiés. C'est le reportage de Johanna Hochstein.
À l'origine du projet, il y a la plateforme Meetsies, un site internet qui permet de rencontrer de nouvelles personnes à travers des soirées organisées à la maison. Lancée il y a un peu moins d'un an, cette initiative était avant tout destinée aux personnes résidant à Bruxelles. Mais Ségolène Martin, l'une des cofondatrices, a voulu l'élargir aux réfugiés qui arrivent dans la capitale belge.
Les réfugiés, tout le monde en parle, mais personne ne les connaît. On les voit à la télé, on les voit dans les médias, on en entend parler, mais on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quel est leur trajet individuel. Et ce qu'on connaît d'eux, c'est juste, ce sont des réfugiés. Et notre objectif, c'est vraiment que les Bruxellois aient l'opportunité de connaître qui sont ces gens, d'où viennent-ils, qu'est-ce qu'ils aiment, qui ils sont, un petit peu avoir peut-être moins peur.
Nader Mouti est arrivé seul à Bruxelles. Ce Syrien, âgé de 19 ans, a quitté Alep. Il a laissé derrière lui sa famille et ses amis. Il n'avait pas d'autre choix, explique-t-il.
Actuellement, en Syrie, vous n'avez que deux options. Soit rejoindre un groupe armé, les militaires, les rebelles ou Daesh, soit être tué par l'un d'entre eux ou par un tir, une roquette ou une grenade perdue. On n'a pas le choix, on est obligé de rejoindre un groupe armé. Je ne sais pas ce que m'auraient demandé les militaires, peut-être de tuer ma propre famille, mes propres cousins ou mes voisins. Je ne veux pas être tué, ni être un assassin. C'est pour cela que j'ai quitté la Syrie.
Nader vit actuellement dans une maison d'accueil pour demandeurs d'asile avec 22 autres migrants, des Afghans, des Irakiens, des Somaliens en attente de papiers. Il suit depuis peu des cours de néerlandais, l'une des langues officielles dans le royaume, mais le quotidien est loin d'être toujours rose.
What alone? And really alone.
On est seul, vraiment seul. On n'a personne ici. J'ai envie de rencontrer des Belges. C'est un peu déprimant de passer sa journée au lit à ne rien faire à part manger. On n'a pas de contact avec l'extérieur à part notre famille restée au pays. Mais avec eux, on ne peut pas se plaindre parce que eux-mêmes sont dans une situation très compliquée.
Bogdan Oyo, belgo-colombien, photographe, habite dans une grande colocation avec 9 autres personnes. Quand on lui a parlé du projet, il a immédiatement accepté d'organiser le premier dîner avec les réfugiés. Il a toujours voulu les aider à s'intégrer. Désormais, il sait comment. Il réfléchit au menu du repas.
Ce sera une recette, que ce soit syrienne ou du pays de provenance, ou totalement locale. On va probablement proposer une carbonade flamande avec une bière locale, ou pas, si on peut pas boire d'alcool au repas. L'intégration, vraiment, je pense que ça va dans les deux sens. Je pense qu'il faut pas s'attendre forcément à ce que les étrangers soient toujours adaptés, etc. Je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Et donc voilà, pourquoi pas faire quelque chose pour la bonne cause, pour nos papis et pour rencontrer des réfugiés.
Et ce dîner sera payant, 10 à 20 euros par personne. La moitié des fonds récoltés servira à financer des études aux réfugiés, leur acheter des ordinateurs portables et des clés 4G pour se connecter à l'Internet, afin de les aider à devenir des programmateurs informatiques. Pourquoi ? Les explications de Pedro Favuzzi, il est le fondateur de la Code School, la toute nouvelle école en ligne de programmateurs.
Il y a une forte demande de programmeurs informatiques, donc c'est plus facile de trouver un emploi à la fin de la formation. Pas besoin de bien parler le français ou le néerlandais parce qu'on communique surtout par email et par algorithme, qui est le langage de la programmation. Pour la plupart d'entre nous, il est normal d'avoir un ordinateur, j'en ai deux par exemple à la maison, mais pas eux. Ils ont tout laissé derrière eux. Un autre problème est qu'ils vivent dans une telle situation de précarité qu'ils n'ont pas accès à Internet. Donc avec un ordinateur et une clé 4G, ils pourront étudier où ils veulent, quand ils veulent, et donc ils seront plus efficaces dans ce qu'ils font.
Même si en Syrie, Nader ne se prédestinait pas à une carrière dans l'informatique, il a été l'un des premiers à s'inscrire à la formation.
C'est une belle opportunité et les études durent un an. Les autres formations durent 3 ou 4 ans. En plus, ils nous aident à trouver un emploi. C'est une bonne occasion pour moi de gagner un peu d'argent pour aider ma famille, pour les aider à quitter la Syrie. Ça me donne de l'espoir de trouver ma place dans cette société, parce que sans emploi, je resterai un moins que rien. Je ne veux pas dépendre toute ma vie des aides sociales.
Une dizaine de ces dîners de bienfaisance ont déjà été organisés en moins d'un mois. Mais depuis les attentats de Bruxelles, il y a de moins en moins d'événements proposés sur la plateforme.
L'Allemagne, qui a accueilli plus d'un million de réfugiés dont les centres d'accueil ne désemplissent pas en Bavière, la ville de Mark Schwaben a initié un parlement des réfugiés, un conseil où l'on prend l'avis de tous ceux qui sont logés dans le foyer pour régler au plus vite les problèmes du quotidien. C'est le reportage de Pauline Curté.
Installés sur des bancs empruntés au vestiaire du gymnase dans lequel ils logent, ils sont une petite vingtaine de représentants à se réunir un dimanche soir sur deux dans un coin un peu plus calme de leur refuge de Mark Schwaben. Parfois seuls, parfois à deux, ils représentent leur pays, soit 10 nations différentes, l'Irak, la Syrie, l'Érythrée, le Pakistan, la Sierra Leone, le Sénégal, l'Afghanistan, le Nigeria, la Somalie et l'Iran. Au menu des discussions ce jour-là, la consommation d'alcool parfois excessive de certains réfugiés, l'accès au Wi-Fi dans le centre, l'organisation de cours d'allemand, le nettoyage des cuisines et des toilettes ou, sujet brûlant, le bruit la nuit. Pour Mohamed Chebana, représentant syrien dans ce Parlement, il faut poser tous les sujets sur la table.
Nous n'avons pas à résoudre de gros conflits, comme par exemple des conflits religieux. Nous devons plutôt résoudre de petits problèmes de la vie quotidienne. Mais si on ne fait rien, dans une situation comme la nôtre, ces petits conflits peuvent grossir et devenir dangereux.
Sur le parquet de ce gymnase qui accueillait jusqu'en octobre dernier les matchs de handball et de basket du lycée voisin, 280 réfugiés doivent cohabiter dans des conditions difficiles. Leurs lits superposés sont alignés les uns derrière les autres et empêchent toute intimité. Et lorsqu'il s'agit de cuisiner ou de se laver, il vaut mieux être patient. Les migrants se partagent seulement 2 cuisines, 7 toilettes et 4 douches. Pourtant, ils doivent s'y faire. La plupart attendent que leur dossier de demande d'asile soit traité pour obtenir un autre logement et cela peut prendre plusieurs mois. Joachim Winkler, élu vert de la municipalité de Mark Schwaben et chargé de l'accueil des migrants, reconnaît qu'on est loin des conditions idéales. Voilà pourquoi il a eu l'idée de créer ce Parlement.
Je voulais parler avec les réfugiés, faire passer des informations, mais ils étaient trop nombreux et ce n'était pas possible. En plus, certains ne parlent pas anglais ou français. Alors les représentants, qui parlent l'une de ces deux langues, jouent aussi le rôle d'interprète. Ils ont clairement une influence sur leur communauté et peuvent calmer les conflits.
Sunday, le représentant du Nigeria dans le Parlement de Mark Schwaben, n'hésite d'ailleurs pas à critiquer ses conditions d'hébergement devant les volontaires et membres de la municipalité venus assister à la séance. Après tout, assure-t-il, c'est son rôle.
Ce groupe, c'est un intermédiaire entre les gens qui logent ici, l'administration allemande qui gère le centre. Nous faisons passer des messages dans les deux sens. Sans nous, l'information ne circulerait pas assez vite. Les membres de nos communautés ne seraient pas au courant des dernières nouvelles sur l'organisation de cours d'allemand ou sur l'accès aux aides sociales, par exemple.
À la fin de cette séance, la quatrième du genre, les apprentis députés repartent avec plusieurs missions. Les Iraniens, par exemple, doivent demander à leurs compatriotes de ne plus passer de coups de fil à leur famille en pleine nuit, car cela réveille les autres occupants du gymnase. Les Afghans, eux, doivent rappeler aux membres de leur communauté qu'ils ne doivent pas laver leur vaisselle dans les toilettes, mais dans la cuisine. Bref, chaque nation a son problème à résoudre, et Philippe Samuel, représentant des Sierra Leone, trouve que cela fonctionne plutôt bien.
Avant la création du groupe, il ne se passait pas une semaine sans que la police n'intervienne pour résoudre un conflit. Maintenant, les membres de notre communauté viennent nous voir lorsqu'ils ont un problème et la police n'a plus besoin d'intervenir.
Ce n'est pourtant pas l'avis de tous les représentants. Makar est sénégalais. Pour le moment, l'expérience le déçoit beaucoup.
Tous les problèmes qui ont été posés depuis le premier jour, depuis la première rencontre, sont toujours sur la table. Il n'y a aucun de ces problèmes qui a eu une solution. Chacun ici est son propre responsable, parce qu'il n'y a pas d'enfant parmi nous. Donc, qui veut faire du bien, le fera. Mais qui veut faire du mal également, s'il le fait, qu'est-ce que tu peux faire contre lui? Donc, tu ne peux pas éduquer une personne que tu as vue pour la première fois. Ce n'est pas possible.
Autre limite de l'expérience, les représentants finissent par quitter le centre. Chaque communauté doit régulièrement en choisir de nouveaux, mettant à mal la relation de confiance qui se développe entre les membres du Parlement. Cependant, l'idée fait son chemin. En Bavière, 3 autres centres d'accueil viennent de créer leur propre assemblée.
Et on ne change pas de latitude avec vous, Vincent Teval. Bonjour.
Bonjour Frédéric. Direction la Suède aujourd'hui avec une grande figure du rock suédois, Ebbot Lundberg, à la faveur du nouvel album de celui qui fut le chanteur du groupe culte The Soundtrack of Our Lives. Entre 1994 et 2012, le groupe a porté la bonne parole psychédélique dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, où The Soundtrack of Our Lives a été très populaire. Le groupe est aujourd'hui séparé et Ebbot Lundberg poursuit sa route en solo, mais pas en solitaire, puisque c'est entouré de jeunes musiciens de la scène rock suédoise qu'il a enregistré For the Ages to Come, très belle collection de chansons où le folk le dispute au rock avec ce qu'il faut d'énergie et de sensibilité et un goût pour des arrangements soignés avec par endroits des chœurs, des cordes ou encore des cuivres, comme sur la chanson qui donne son titre à l'album. Everybody sees, everybody knows, everybody wonders if we're all supposed to grow for the ages to come. Everybody waits, everybody tries, everybody's keeping up with all there is to buy for the ages to come, for the ages to come. Save another whale, save another craze, save another moment, try to save your face for the ages to come. Save another job, save another tree, save another soul searching for a tea in the ages to come, for the ages to come. I've got
For the Ages to Come de Ebbot Lundberg. La culture n'est pas un luxe, elle est même un facteur d'intégration très puissant. Les musées de Berlin l'ont bien compris. Ils organisent des visites guidées en arabe de leur collection, pilotées par et pour des réfugiés. Au départ, l'expérience ne concernait que le musée de Pergame, connu dans le monde entier pour ses collections d'art islamique. Mais depuis, l'idée a été reprise par le musée d'histoire de la ville. Une façon pour les réfugiés d'intégrer en douceur l'histoire de leur pays d'accueil et de se l'approprier. Visite avec Déborah Berlioz à Berlin.
Une vingtaine de réfugiés se pressent dans l'entrée de l'impressionnant musée d'histoire allemande. Pour eux, nul besoin de passer à la caisse, l'entrée est gratuite, tout comme la visite guidée qui se fera en arabe. Aujourd'hui, c'est Sandy qui va les entraîner dans les couloirs du musée et leur faire découvrir l'histoire de leur pays d'accueil. Cette Syrienne de 22 ans adore son nouveau métier de guide, même s'il est bien loin de sa formation de comptable.
Je vis en Allemagne depuis presque 2 ans. J'ai suivi un cours d'intégration et maintenant je travaille. Je suis guide pour ce projet ici au musée depuis le mois de janvier. C'est un ami qui m'en a parlé. Ça m'a bien plu. L'histoire en général et l'histoire de l'Allemagne m'intéressent beaucoup. Mais malheureusement, je ne connaissais rien à part ce que j'avais lu sur Internet.
Sandy a donc été formée avec 18 autres réfugiés par les musées de Berlin. Ce projet d'intégration culturelle a été baptisé Multaka, ce qui veut dire « point de rencontre » en arabe. Au départ, il a été lancé par l'équipe du musée Pergame à Berlin, qui abrite la majeure partie des collections allemandes d'art islamique. Les initiateurs pensaient que cela ferait du bien aux réfugiés déracinés de renouer avec leur patrimoine. Mais bien vite, les demandeurs d'asile ont commencé à poser des questions sur l'histoire de leur pays d'accueil. Le projet a donc été étendu au musée d'histoire allemande et ses visites ont un énorme succès. Aujourd'hui, le premier arrêt se fait devant un portrait de Martin Luther, le père du protestantisme allemand. La réforme, les chrétiens qui se déchirent, le sujet passionne les réfugiés, raconte Boris Nitsche, porte-parole du musée.
L'Allemagne aussi a été dévastée pendant 30 ans par des guerres de religion. Tout de suite, ça renvoie les réfugiés à leur propre situation. Ils trouvent ça passionnant, surtout de voir comment un pays divisé, déchiré, finit par se retrouver. C'est un sujet dans lequel ils voient des parallèles, mais ils y trouvent aussi de l'espoir et en tirent des leçons. En fait, ils apprennent à mieux connaître le pays et ça leur ouvre aussi des perspectives pour leur propre histoire.
Souvent, les réfugiés viennent dans le cadre de leur cours d'intégration avec leur prof d'allemand. Les visites ne sont toutefois pas classiques, pas chronologiques. Le but n'est pas de leur donner un cours d'histoire, mais de favoriser le dialogue entre les civilisations, l'échange mutuel. Par exemple, devant une vitrine consacrée au nazisme, Saïp, un entrepreneur de Damas, fait tout de suite le parallèle avec la dictature de Bachar el-Assad.
Quand je vois les problèmes que les Allemands ont eus avec Hitler, ça me rappelle l'histoire du peuple syrien. C'est la même histoire. Et je suis sûr que si les Allemands ont autant d'empathie pour les Syriens, c'est parce qu'ils ont eu avant les mêmes problèmes.
Quant à Sultan, c'est la grande maquette qui reproduit les chambres à gaz d'Auschwitz qui retient surtout son attention. À l'école, on lui a appris que l'Holocauste était une invention des Occidentaux.
On nous a dit que c'était un mensonge pour que l'Europe puisse envoyer ses juifs en Palestine. Et si quelques juifs ont bien été tués, c'était juste les vieux ou les malades. Et ici, au musée, je peux voir la vérité, voir ce qui s'est vraiment passé.
Le groupe passe ensuite devant les films et les photos qui montrent l'Allemagne dévastée après la Seconde Guerre mondiale. On y voit le pays en ruine, occupé et partagé entre les vainqueurs du conflit. Des images qui imposent le silence parmi les visiteurs, sans doute parce qu'elle leur rappelle la destruction de leur propre pays. Mais Mohamed préfère s'intéresser à la suite, à la reconstruction et à la réunification de l'Allemagne.
Je suis frappé de voir à quelle vitesse l'Allemagne se redresse. Il a fallu 25 ans environ. Et je pense au futur de la Syrie, la manière dont les gens se sont retrouvés réconciliés en Allemagne, grâce à l'éducation notamment. Il faudra faire comme ça chez nous. Ce parallèle entre l'Allemagne et la Syrie me donne de l'espoir aujourd'hui.
Détruite, vaincue, partagée en deux, malgré tout cela, l'Allemagne est aujourd'hui la première puissance européenne et la quatrième puissance économique mondiale. Le groupe ressort donc de la visite enthousiaste et optimiste. L'histoire tumultueuse de l'Allemagne leur redonne confiance. Un beau résultat auquel ne s'attendaient pas forcément les initiateurs du projet. Ces visites fonctionnent d'ailleurs tellement bien que Multaka a reçu en mai le prix fédéral du meilleur projet d'intégration.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr.
autour de la question.